Dans l'Apocalypse 21, il est parlé de la cité. Un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux. Alors c'est chapitre 21, verset 9. Va m'adresser la parole et dit, viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Je te montrerai l'épouse, la femme, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle est entourée d'une grande et haute muraille, avec 12 portes. Et à ces portes, 12 anges, des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Donc cette cité, elle a une muraille tout autour, il y a 12 portes, et c'est à ces portes 12 anges, et des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations, qui portait les noms des 12 apôtres de l'agneau. C'est ça que je voulais souligner, cette cité qui représente l'Église du Seigneur, celle qu'on a chantée, qu'on a rappelée ce matin, cette Église merveilleuse pour le Seigneur. Eh bien, on la retrouve là, dans la cité, puisqu'il dit... Il est dit, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Et on voit la cité. Alors, dans cette cité, ce que je voulais souligner, c'est que il y a la muraille, il y a les 12 portes, les noms inscrits, c'est les 12 tribus. Et puis ensuite, il y a les fondations, aussi 12 fondations, et les noms des 12 apôtres de l'agneau. Ce qui me frappe, c'est que toute l'histoire, tout ce qui est dans la Bible, depuis longtemps, Dieu nous présente son peuple terrestre qui était sous la loi, et puis ensuite son Église, l'Église du Seigneur, qui est sous la grâce. Et on trouve dans cette cité, qui est la cité éternelle, on trouve les noms des 12 tribus. Donc, il y a toujours les noms de ceux qui étaient sous la loi. Et puis, il y a les noms des 12 apôtres, les noms de ceux qui étaient sous la grâce. 12 et 12. Toujours des chiffres comme ça, des nombres qui sont parfaits pour Dieu. Et toute cette cité qui est d'or, qui est magnifique, qui est merveilleuse, en fait, elle est fondée, elle a sa muraille fondée, et ses portes qui sont l'entrée dans la cité, qui sont fondés en fait sur des hommes, des noms d'hommes qui étaient complètement imparfaits. Dieu fait quelque chose de parfait à partir de quelque chose de complètement imparfait, puisque la loi a montré l'incapacité de l'homme à approcher de Dieu, à être assez saint pour que Dieu puisse l'accepter, puisque la loi a mis en lumière l'incapacité de l'homme à faire la volonté de Dieu. Et puis ensuite il y a l'Église, les apôtres qui sont l'entrée de l'ère de l'Église. Et puis maintenant on est bien placé pour savoir que l'Église aussi est complètement dans la capacité d'honorer Dieu. On l'a vu dans notre Église locale, on le voit dans l'Église en général, dans toute l'histoire de l'Église. On voit comme des fois il y a eu des réveils, un enthousiasme, et puis c'est retombé, puis il y a eu des exactions qui sont faites au nom de Dieu. Il y a eu des choses vraiment qui ne sont pas du tout normales. On voit bien dans l'histoire, on voit bien ce que les hommes ont fait au nom de Dieu, et y compris l'Église, celle qui a le nom de l'Église. Puis cette Église qui est morcelée, qui dans la pratique est souvent, on est souvent en train de s'agresser les uns les autres, de se diviser, de se subdiviser, de se rediviser encore. de se disputer. Et bien pourtant, dans cette cité céleste, dans cette éternité, eh bien, il y aura toujours ces noms qui resteront là. Et non, les tribus qui sont issues des fils de Jacob, et on sait bien ce qu'ont été l'histoire des uns et des autres, ça a été plutôt catastrophique, en fait, l'histoire du peuple d'Israël. Et puis après, l'histoire de l'Église, les noms des 12 apôtres, puis l'histoire de l'Église. Tout ça, ça restera, il y aura ces noms, il y aura cette muraille, il y aura ces portes. Pourtant, à un moment, il nous est dit que les 12 portes, c'était 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. C'est très beau, les perles, hein. C'est quelque chose de beau. Ça ressort, d'où viennent les perles? Elles viennent d'un défaut au départ, d'un grain de sable, hein, qui s'est retrouvé dans une huître. Ouais, c'est dans les huîtres, les perles. Ouais. Et qui, à partir de là, l'huître, pour se défendre de la gêne que lui occasionne le grain de sable, elle forme une pellicule, devient une perle. Et il nous est dit que le Seigneur, pour lui, son Église, c'est une perle de grand prix, de très grand prix, pour laquelle il a tout vendu. Et ce qui part d'une souffrance, d'ailleurs, c'est parti, l'Église, elle est partie de la souffrance du Seigneur, de la croix, on l'a évoqué, et puis à la souffrance qui est liée aux imperfections de tous les siens. Il voit tous les siens, il les aime, il voit ce qui est beau, parce qu'il a fait de nous quelque chose de beau, mais il y a toujours ces imperfections, ce péché qui est là, et qui reste dans la perle, en fait, le grain de sable, il reste dans la perle, il restera pendant l'éternité, mais il y a cette beauté que Dieu est capable de faire, de créer autour. Hein, et on a chanté là ce cantique. Dieu fera tout comme il promet. Dieu dépasse toutes nos imperfections. Dieu rend les choses qui sont mauvaises, qui sont moches, qui sont viles, qui sont tristes. Et il arrive à les rendre belles, en faire des perles qui sont précieuses. C'est hyper encourageant. Et puis pour les fondations de cette muraille qui avait les noms des 12 tribus, et bien les fondations aussi, on voit un peu plus loin. La muraille était construite en jaspe. La ville était d'un or pur transparent, comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses, de toutes sortes. La première ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Dieu trouve un nom, une qualité, une belle pierre pour chaque fondation. Ça aussi, c'est beau, parce que quand on voit l'histoire du peuple, ça a été catastrophique. Et le nombre de fois dans les prophètes, dans Isaïe, dans Jérémie, dans Ézéchiel, Dieu dit, mon peuple m'a abandonné, mon peuple m'a trahi. Il compare même son peuple à une fiancée, à une femme qu'il a aimée, et puis qu'il a trompée. Et puis, chaque fois, il dit, mais voilà, il y aura un chemin de retour, il y aura quelque chose qui permettra, qui fera que mon peuple va revenir, que je vais réhabiliter cette ville de Jérusalem qui m'a déshonoré, que j'ai dû faire en sorte qu'elle soit détruite. Détruite une première fois par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, détruite une deuxième fois par les Romains, le temple qui était la maison de Dieu, que le Seigneur aimait, il avait cette joie de venir au temple quand il était sur la terre, ce temple qui a été bafoué, qui a été le repère des brigands, comme il dit, qui a été une caverne de voleurs. Tout ça, Dieu va en retirer quelque chose qui sera inscrit pour l'éternité, qui sera un souvenir à la fois beau, parce que c'est le souvenir de la grâce de Dieu, parce que Dieu, dans tous ses prophètes, il dit, bon ben, voilà, c'est comme ça, vous m'avez bafoué, vous m'avez rejeté, vous m'avez déshonoré, mais je vais vous ramener à moi, je vais me réconcilier, vous réconcilier avec moi. Et puis, je vais faire de tout ça quelque chose de beau, quelque chose d'éternel, quelque chose de grand. Quelle grâce, quelle grâce extraordinaire de notre Dieu, qui est un Dieu qui veut, il va réhabiliter Jérusalem. Jérusalem, la Jérusalem terrestre va devenir la capitale pendant 1000 ans, capitale du monde. Et le Seigneur va régner dans cette Jérusalem qui sera enfin digne de sa gloire. Et puis ensuite, il y aura cette cité éternelle, il y aura les nouveaux cieux, la nouvelle terre pour l'éternité. Et nous, on y sera, on sera là. On sera là pour l'éternité avec le Seigneur tout près de lui, tous ensemble. Tous ceux qui se sont chamaillés, disputés, qui ont déshonoré le Seigneur dans leur façon de vivre, dans leur façon d'être, dans leur témoignage. Et bien, le Seigneur, il va y voir ce qui est beau, il va en sortir des perles qui sont belles, des pierres précieuses qui sont magnifiques. Parce qu'elles ont été taillées, parce qu'elles sont parties de... Une pierre précieuse, elle est pas belle tout de suite, hein, elle est... Des fois, on sort un bloc comme ça, et puis, on va en sortir une rose, une améthyste, toutes ces pistes. Moi, je les connais pas bien, les pierres précieuses. Mais il y en a beaucoup. On les taille, on les façonne, et puis elles deviennent belles. Et il y a souvent cette notion dans la parole de Dieu, cette notion de partir de quelque chose de qui n'a pas d'apparence, qui n'est pas beau, qui n'est pas glorieux, et puis d'en faire quelque chose de beau. On a vu aussi dans les actes, mercredi à la réunion de quartier, là, on a vu que le Seigneur peut faire quelque chose de beau à partir. Ça m'a échappé ce que je voulais dire, en fait. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, enfin, tant pis. Voilà. Tout ça pour dire que on n'est vraiment pas à la hauteur, mais le Seigneur nous aime quand même. Et en passant, ces 12 apôtres, je voulais aussi dire quelques mots sur les 12 apôtres. Parce que on a été frappé cette semaine. On écoute régulièrement Claude Houde, là, dans son café matinal. On a été frappé par... il prend les chapitres, en ce moment il est dans Matthieu, et là il est dans le chapitre 9, 10, et au chapitre 10, on va lire la liste des apôtres, et on va voir aussi qui étaient ces apôtres. Au chapitre 10 de Matthieu, Jésus appela ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée. Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu. Le collecteur d'impôts. Jacques, le fils d'Alphée. Lébée, surnommé Thaddée. Simon, le cananite. Et Judas, l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Il est toujours appelé comme ça, Judas, celui qui va trahir. C'est quelque chose. Et alors, le Seigneur, comment il a fait pour choisir ses disciples, qu'il a appelés apôtres? Alors, disciples, c'est ceux qui sont au pied du maître, qui écoutent, qui reçoivent l'enseignement. Il y en avait beaucoup, des disciples. Et à un moment, il en envoie 70. Il envoie 70 disciples dans les villes. Là, il y en a 12 qu'il choisit plus particulièrement pour être plus proche de lui, pour être avec lui plus constamment. Et il les appelle apôtres. Apôtres, ça veut dire envoyer. Il va les envoyer, ils vont être ceux qui l'envoient. Mais quand on réfléchit un petit peu à qui c'est ces apôtres, Pierre, André, Jacques et Jean. C'est des pêcheurs, ils ont une entreprise de pêche en fait, ils sont sur le lac, ils pêchent. Ils sont, comme il est dit d'ailleurs, c'est dit un peu plus après dans les actes, c'est dit qu'ils étaient sans instruction, que c'était pas il n'a pas choisi le plus haut gratin de la société, hein. C'était des gens qui travaillaient à la base, qui n'avaient pas d'instruction, qui ne savaient ni lire ni écrire. Après, Philippe Barthélémy nous a parlé de Philippe plusieurs fois. Barthélémy, une seule fois, que dans la liste des apôtres. Ensuite, Thomas, on sait ce qu'il en est de Thomas, hein, qui à un moment, il n'a pas cru parce qu'il n'a pas vu. Jésus n'était pas là au moment où les autres étaient là, il n'a pas cru. Il a dit, si, quand je verrai, c'est, il n'a pas cru à la résurrection. Voilà ce qu'on sait de Thomas. Pas grand chose d'autre, en fait. Matthieu. Alors, Matthieu, c'était le collecteur d'impôts. Je continue. Ensuite, Jacques, fils d'Alphée. On sait pas grand chose de lui non plus. Lévi, surnommé Thaddée. Alors, Thaddée, dans d'autres listes, il est appelé Jude. C'est Jude, mais pas Judas, hein, c'est un autre Jude. Et puis, Judas. Simon, voilà, alors, Simon, le Cananite, je voulais parler de ça. Alors, il est dit, c'est, dans une autre version, c'est Simon, le Cananéen. Et ailleurs, il nous est dit, c'est Simon, Zélote. Et c'était, il faisait partie d'un groupe, enfin, de révolutionnaires, hein, de ceux qui contestaient les Romains, qui étaient en rébellion contre l'envahisseur romain. Hein, donc. Dans le même groupe, il y a Matthieu, le collecteur d'impôts, qu'on peut qualifier de collaborateur avec les Romains, puisque les Romains, il était missionné par les Romains pour prendre des impôts au peuple juif, donc il était détesté par le peuple juif. Et puis, il y avait comme un activiste, hein, quelqu'un qui allait contre les Romains, qui combattait les Romains de toutes ses forces. Ils étaient dans le même groupe avec le Seigneur. C'est frappant, ça. Hein. Le Seigneur, et puis il avait ce Judas qui a été son épine dans le cœur pendant ces 3 ans de ministère, parce que lui savait très bien ce qu'il allait faire. Voilà un petit peu le type de personne qu'il y avait. C'était pas très glorieux, en fait. Mais il leur donne quand même le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité. Et puis ensuite, il y aura leur nom écrit pour l'éternité dans cette cité. Voilà, je voulais un petit peu mettre l'accent là-dessus. En ce moment, des fois, on est triste, on a ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être parfaitement uni comme on devrait l'être. Mais franchement, ça vaut le coup de rechercher l'unité, de témoigner de l'unité de l'Église, de cette unité que le Seigneur souhaite et qui va manifester, qui est une réalité, qui sera une réalité lorsqu'on le verra dans le ciel. Parce que cette symbolique de ce qu'est l'Église, eh bien, c'est très équilibré, il y a 3 portes au nord, 3 portes à l'est, 3 portes au sud, 3 à l'ouest. C'est tout un ensemble qui fait que cette cité, elle est parfaite, elle est en carré, elle est tout en or. Et tout est beau dans cette cité. Et le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux à partir d'hommes et de femmes complètement imparfaits. Mais c'est la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et puis on sait qu'il fera, hein, même si les collines s'écartent, si tout se désagrège, Dieu fera tout comme il a promis. Et tout ça, et ce qu'on a vu dans l'Apocalypse, ça c'est une réalité. C'est pas quelque chose, un rêve. Non, c'est quelque chose qui va arriver bientôt, très bientôt. On va vers cet avenir magnifique, cette perfection de Dieu. Dieu a tout fait pour ça. Il y a eu tout le plan de Dieu qui a commencé. Alors bien sûr, c'est mystérieux. Pourquoi il a fallu tout ça? Pourquoi il a fallu ce peuple infidèle? Pourquoi il a fallu la mort de Jésus? Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Parce que Dieu est tellement saint que personne ne pouvait répondre à sa justice. Il a fallu que le Seigneur meure sur la croix. Ça n'a pas pu être quelqu'un d'autre. Et puis après toute cette église, 2000 ans d'église avec une histoire très chaotique. Mais quand même, là on est dans les derniers jours, dans les derniers temps. Et c'est le Seigneur, il nous demande de nous rassembler, ils travaillent en nous. Alors c'est dur, c'est quelquefois c'est compliqué. Il y a des situations qu'on ne comprend pas, il y a des déchirements qu'on n'explique pas, il y a des tensions quelquefois. Voilà, parce qu'on n'est pas tous des fois arrivés au même niveau, à la même vitesse, on n'a pas tous les mêmes vues. Mais quand même, on est tous au Seigneur, on sera tous là, là-haut avec lui, dans cette cité magnifique, tous réunis, tous à chanter le cantique nouveau, dans cette langue du ciel qui sera une langue magnifique, on se comprendra tous, on pourra tous louer ensemble notre Seigneur qui sera là, dans toute sa beauté, avec cette couronne magnifique, avec tous ses diadèmes sur sa couronne. Et il sera tellement heureux, notre Seigneur, il sera tellement heureux de voir les résultats de tout ce travail qui a duré des siècles, mais qui sera dans une splendeur, dans une perfection, qui sera pour l'éternité. Et qu'est-ce que c'est que la durée de ces siècles de galère, entre guillemets, par rapport à une éternité magnifique, merveilleuse, tous ensemble, le Seigneur avec son épouse, celle qu'il aime, celle qu'il a tellement envie d'avoir près de lui, et puis qu'il aura façonné, qu'il aura fait grandir, qu'il aura amené une beauté parfaite au fil des siècles, pour être une épouse digne de lui, et pour être une épouse digne de lui. Eh bien, c'est pas évident, mais il est capable de ça. Et il aura son épouse, donc, qui se rappelle comme il la désire, et comme il l'aime déjà. Merci Seigneur pour ton plan magnifique, extraordinaire, merveilleux. Amen.